L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'oreille mathématique. Elle a d'abord rêvé d'être exploratrice ou grand reporter. Puis, elle a finalement commencé sa carrière comme ingénieure grand travaux en travaillant sur des barrages et des écluses de navigation. Aujourd'hui, notre invitée a changé de voie et travaille comme mathématicienne, directrice de recherche à l'INRIA, sur des projets en lien étroit avec la biologie et la médecine. Ses terrains de réflexion favoris, les maladies amyloïdes de type Alzheimer, et plus largement, les processus biologiques du vieillissement. Bonjour Marie Doumic.
Bonjour.
Marie Doumic, vous êtes responsable de l'équipe projet MERGE. MERGE, c'est mathématiques pour l'évolution, la reproduction, la croissance et l'émergence à l'INRIA et à l'École Polytechnique. Ancienne élève de l'École Normale Supérieure, vous êtes aussi ingénieure en chef des ponts. Autant dire que vous avez suivi un parcours d'excellence. Hein. Mais est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire ou peut-être ne pas faire en entamant vos études supérieures, Marie Doumic ?
Alors non, pas du tout. Comme vous l'avez dit au début, Hélène, moi, je pensais, enfant, être exploratrice. Un peu plus grande, c'était un peu plus sérieux, donc j'ai voulu être journaliste reporter, comme ma mère. Enfin, ma mère était journaliste, mais pas reporter. Il y avait déjà cette idée d'explorer, de découvrir et d'aventure. Et puis, comme pas mal d'adolescents, au moment de choisir, en terminale, je n'avais plus aucune idée sur rien. Et je m'étais dit, bon, ben, on va faire des études pas trop longues. Donc je m'étais dit, une école de commerce, à l'époque, c'était seulement un an de préparation. Mais c'était pas très réfléchi et j'aimais un peu toutes les matières. C'est uniquement en terminale, fin de la terminale, que c'est ma professeuse de mathématiques qui m'a dit, mais enfin, c'est dommage, c'est quand même intéressant d'étudier quelque chose complètement à fond. Et si vous voulez étudier quelque chose complètement à fond, il y a les lettres, bien sûr, mais c'est pas toujours évident de trouver un métier. Et puis il y a les sciences. Et alors là, je me suis du coup orientée vers les maths, vers la prépa scientifique, sur l'idée que finalement, j'étais peut-être capable. Mais ce n'était pas clair pour moi.
Comment ça, peut-être capable ? Ça veut dire que vous doutiez, il y avait quand même une forme de doute sur vos capacités aussi ?
Oui, je pense que ça me paraissait trop difficile et surtout, je m'y intéressais pas beaucoup. Ma famille était pas du tout scientifique. Je connaissais aucun chercheur autour de moi. Pourtant, mes deux grands-pères étaient centraliens, mais on valorisait beaucoup plus tout ce qui était littérature. Donc, spontanément, j'aurais dit, ben moi, j'aime bien le français. Et c'est vrai que les maths, ça marche bien, mais voilà. Et là, j'ai vraiment choisi cette voie en me disant, ben je vais essayer et au moins, je ferai quelque chose à fond. Je me disais aussi en terminale, je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent ça, je sais rien faire. Et ça, ça m'embêtait. Donc là, je me disais, ben, au moins, je saurais faire une chose, les maths et la physique, et c'est déjà ça.
Vous fréquentiez un lycée qui était un très très bon lycée parisien. Vous étiez élève au lycée Louis-le-Grand, c'est ça ?
Oui, j'étais à Louis-le-Grand, mais je n'étais pas dans une classe d'élite du tout. Il y avait la terminale 1 qui était la meilleure. Moi, j'étais dans une terminale normale. Voilà, donc c'est vrai que c'était un très bon lycée. Mais je ne me suis pas sentie, en arrivant en prépa, tellement meilleure que mes camarades. Hein. On arrive en prépa et là, on se sent tous très petits face à l'immensité des mathématiques. On découvre quelque chose, on découvre un langage, on découvre quelque chose de complètement nouveau.
Vous avez l'impression que les mathématiques que vous avez fait jusqu'en terminale et les mathématiques que vous avez découvertes en prépa, c'était complètement différent
en fait. Ah oui, vraiment rien à voir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus ça. C'est vraiment... c'est un monde... On découvre, et j'avais un professeur passionné, je pense que c'est là où j'ai vraiment dit, bah oui, j'aime ça. C'est toute une façon d'écrire le monde. C'est un univers en soi, et il y a une beauté des mathématiques, une poésie. Même si c'est très difficile, c'est de la poésie un peu abstraite, disons. Qui est fascinante. Donc ça, je pense que oui, là j'ai aimé les mathématiques. Pas au point toujours d'en faire mon métier, hein. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'écoles, il y a toutes les écoles d'ingénieurs après. Donc ça, je m'étais dit, ben, c'est bien, quel que soit mon niveau, et ça c'est vrai, il y en a pour tout le monde. Et toutes les écoles d'ingénieurs sont très bien. Et toutes mènent à énormément de métiers différents. Donc voilà. Et après, quand j'ai été reçue à l'école normale, je ne m'y attendais pas non plus. Et là, c'est une école qui, pour le coup, forme des chercheurs.
Or, Marie Doumic, vous m'avez dit que vous, la recherche, c'était toujours pas votre rêve à ce moment-là.
Non, ça c'est vrai, toujours pas. J'aimais bien les maths cette fois, ça j'aurais pu le dire quand même. Plus que la physique, ça c'était très très clair aussi. Mais c'était pas mon métier de rêve. En revanche, à partir du moment où j'y suis allée, j'ai quand même accepté de jouer le jeu. Parce que le principe, c'est de former des chercheurs. Donc je m'étais dit, d'accord, je joue le jeu, j'essaye. J'ai essayé. J'étais aussi assez fatiguée. La prépa, c'est fatigant. Hein. En tout cas, pour moi, ça l'a été. On travaille énormément pendant 2 ans. J'avais 20 ans. J'avais aussi très envie de découvrir d'autres choses. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de théâtre. Voilà, j'ai quand même continué les mathématiques. J'ai commencé une thèse. Mais déjà, ma thèse, je l'ai choisie sur un sujet relativement appliqué, puisque c'était au commissariat à l'énergie atomique, appliqué au laser mégajoule, qui était un grand projet près de Bordeaux. Donc, je sentais bien cette volonté du concret, et malgré le fait que les maths soient appliquées dans ma thèse, ça restait trop abstrait pour moi et trop un exercice de maths. Et donc, j'ai décidé d'aller aux Ponts et Chaussées pour être ingénieur. Et là, dans mon idée, c'était bon, j'essaye de terminer ma thèse quand même par esprit de sérieux, mais après, c'est fini, la recherche ce sera fini. Donc, c'est là où j'ai fait des travaux, j'ai dirigé un service grand travaux, et c'était très amusant, je veux dire, c'était passionnant, j'ai appris énormément de choses en m'occupant de barrages de navigation et d'écluses de navigation sur tout le bassin de la Seine.
À ce moment-là, vous aviez quel âge quand vous avez commencé votre carrière en travaillant comme grand ingénieur?
J'avais 29 ans. Oui, si je me trompe pas, c'est ça. 29 ans, c'était... Donc là, enfin, pour moi, c'était le début de ma vraie vie professionnelle, parce que je sens très bien les étudiants en thèse... Certains et certaines savent vraiment que c'est ça qu'elles veulent faire. Et dans ces cas-là, il y a une maturité dans leur façon d'aborder le problème qui fait que ils ont déjà conscience qu'il y a un enjeu derrière, qu'il y a un objectif. Moi, je dois dire que j'avais pas cette maturité quand j'ai commencé ma thèse. J'avais plutôt l'impression que c'était un énorme exercice de mathématiques sans bien voir son intérêt concret. Alors quand j'ai fait ma vie professionnelle, mon vrai premier travail, c'était pas ma thèse, c'était à 29 ans, ce service grand travaux. Et là, j'ai appris ce que c'était que d'avoir des responsabilités, de gérer un budget, en équipe, de gérer un chantier, de prendre des décisions. Et c'est tout cet aspect projet, conduite de projet, qui m'a fait penser, quand j'ai finalement soutenu ma thèse, que peut-être que j'avais pas eu suffisamment de maturité pour faire de la recherche scientifique. Et que ça serait intéressant d'essayer de nouveau de recommencer la recherche, mais avec cette vision, j'ai un projet et je veux arriver à trouver la solution. Alors, la difficulté dans la recherche, c'est qu'il n'y a pas de délai. Contrairement à mon métier dans les grands travaux, les délais, on se les fixe à soi-même. Mais plus on grandit, et moins c'est vrai, parce que malgré tout, il y a nos étudiants qui ont des délais. Donc il faut bien qu'ils la soutiennent, leur thèse. Il y a aussi des soumissions de projets. Il y a des dates butoirs de temps en temps. Donc on arrive quand même à avoir cette notion de projet concret. En tout cas, il faut se la mettre, parce que c'est des contraintes, même si elles n'existent pas. Il faut qu'on se les fixe à soi-même. Et puis il y a l'idée de dire, je me rappelle une conférence très intéressante d'un ingénieur des ponts qui disait... Mon patron m'avait expliqué, tu vas voir, on va finir ce projet dans les temps et suffisamment bien. Et je crois que même dans la recherche scientifique, il y a cette notion de ne pas perdre l'objectif de vue, il ne faut pas essayer de faire le mieux possible tout le temps, il faut arriver à conclure, et puis progressivement, on améliorera le résultat par la suite. Voilà, et alors en tout cas, cette notion de projet, quand je suis revenue dans la recherche...
Comment elle s'est faite quand même cette transition? Parce que est-ce que c'est compliqué justement de quitter son métier d'ingénieur lorsqu'on est ingénieur des ponts pour rejoindre un institut de recherche en mathématiques? Est-ce que la transition se fait de manière... Enfin, est-ce que c'est simple?
Ah oui, non, ça je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Il faut un peu de volonté, mais surtout ce qui se passait c'est que mon poste durait 3 ans, 4 ans. C'était la durée normale. Donc on nous encourage au bout de 2 ans et demi, 3 ans à réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire après. C'est à ce moment-là que, ayant soutenu ma thèse entre-temps, je me suis dit, finalement, il y a dans ce métier que j'ai beaucoup aimé, vraiment, dans un service formidable, il y a ce côté très concret de conduite de projet. Où est-ce que je pourrais retrouver cette notion de conduite de projet où je ferai les choses moi-même et pas uniquement où de plus en plus, au fur et à mesure de la carrière, on encadre des gens qui font. Et puis nous, on encadre, mais on ne fait pas. Là, je me suis dit, moi, j'aime faire moi-même. Et la recherche permet un peu de rester éternellement l'artisan qui fait lui-même. Et c'est pour ça que j'y suis revenue. Alors après, comment est-ce que j'ai trouvé l'endroit où j'ai pu aller, à l'INRIA? J'ai mieux réfléchi aussi, c'est-à-dire que j'ai été dans plein d'endroits différents. J'aurais pu continuer plus comme pendant ma thèse, ce qui était très intéressant aussi, l'interaction laser-matière. Mais j'avais beaucoup moins d'intuition et de goût pour l'application. Et moi, ce qui me motive, c'est vraiment de voir à quoi ça sert ce que je fais. Et là, les mathématiques appliquées à la biologie, qui ne sont pas très anciennes. Vous voyez, la physique, c'est depuis la nuit des temps que les maths sont appliquées à la physique. Les deux ont grandi ensemble, en fait, mathématiques et physique. Alors que la biologie, pendant très longtemps, c'était resté sur un plan complètement descriptif. C'était pas très valorisé, d'ailleurs. Quand on lit les philosophes, ça passait un peu pour une sous-science, quoi. Il y avait la reine, c'était la philosophie, les mathématiques, la physique. Et puis, plus on descend vers le concret, et plus on est bas dans l'échelle des sciences. Enfin, ça, c'était autrefois, hein. Et là, ça se développe en France depuis 2000 à peu près, guère plus.
Mmh. Vous m'avez dit 2007. C'est vraiment le début comme ça de l'intrication entre la recherche mathématique et la recherche en biologie.
Quoi. Oui, alors 2007, c'est parce que moi, j'ai recommencé en 2007.
Ah bon.
Et que ma thèse, quand je l'avais commencée, c'était en 99. Mmh. Et là, c'était les balbutiements. Donc quand je reviens, là pour le coup, il y a plusieurs équipes qui font des maths appliquées à la biologie. Et ça, je trouve ça fascinant. Je retrouve la fascination que j'avais lycéenne pour la biologie. Sans d'ailleurs que je sois super forte en biologie, ça c'est autre chose. Mais ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, je me dis, ben oui, là j'ai l'impression de voir beaucoup mieux les objets que je vais modéliser mathématiquement. Et voilà, tentons quoi.
Est-ce que vous avez l'impression que, en travaillant comme ça... Alors, j'allais dire au quotidien, mais vous allez peut-être me reprendre là-dessus, parce que ce n'est pas forcément quotidien le travail avec des biologistes, en fait. Mais en tout cas, en travaillant régulièrement avec des biologistes et des médecins aussi, j'imagine, est-ce que vous avez l'impression que la mécanique de raisonnement qui est la leur vous demande à vous de vous y adapter, ou inversement ?
Oui, alors ça, c'est très vrai. C'est vrai que chaque discipline scientifique, d'abord, on a notre culture, on a notre formation, et puis, on n'a pas choisi une science par hasard, on a une forme d'esprit particulière. Et les biologistes, souvent, sont extrêmement clairs sur leurs questions, mais il suffit qu'on leur pose une toute petite question qui, nous, va nous paraître très naturelle, pour qu'ils se disent « Ah ben non, tiens, ça, on n'y avait pas pensé ». Ça peut être « Tiens, ben, est-ce que quand vous faites cette expérience, vous avez mesuré telle quantité ?» Ah ben non, on n'y a pas pensé. Ou bien, la façon dont on pose la question, souvent, les conduit, eux, à voir les choses différemment. Et c'est souvent déjà ça, simplement, la rencontre de plusieurs intelligences différentes qui est très fructueuse. J'aimerais bien avoir un exemple, mais alors là, j'ai plus d'exemple en tête immédiat. Si, ben, par exemple, si on mesure une population de bactéries, il y a vraiment, ça s'est développé depuis quelques années, les données de chaque cellule individuelle sont extrêmement riches. Et arriver à les exploiter complètement, ça demande d'écrire un modèle mathématique. Sans modèle mathématique, si on se borne à décrire les quantités, on ne va pas réussir vraiment à rentrer dans le cœur de la cellule et comprendre à l'intérieur ou derrière ce que cache une certaine évolution de la population. Et c'est là où les maths sont vraiment utiles. Mais alors ensuite, je dirais même qu'au sein des mathématiques, on ne pense pas tous de la même façon. Et... ce que j'aime beaucoup aussi dans le fait de faire des mathématiques appliquées, c'est que quand un biologiste pose une question, qu'on a réussi à formuler une question avec une biologiste, déjà on est content, et on le formule en maths. Mais il n'y a pas une seule façon de le formuler. Moi, spontanément, j'écris une équation parce que c'est mon domaine de recherche privilégié, enfin le premier, là où j'ai fait ma thèse. Mais en discutant de l'application, donc des bactéries qui grossissent, c'est une collègue qui m'a dit, ben, toi, tu mets une équation, mais moi, je ne mettrais pas une équation. Moi, je mettrais un processus stochastique. Et en tirant le fil, c'est finalement à travers la biologie que je me suis mise à collaborer avec des mathématiciennes et mathématiciens d'autres disciplines. Par exemple, des probabilistes, des statisticiens. Voilà. Et là aussi, les cultures ne sont pas les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes. Et c'est très riche. Et puis, nous aussi, on ne se pose plus les mêmes questions grâce aux biologistes. voyez, par exemple, les équations que je regarde, elles sont étudiées beaucoup depuis beaucoup d'années. Donc on pourrait se dire, ben d'accord, tout a été dit depuis 50 ans qu'il y a des gens qui se penchent pour trouver des solutions. Et ben, le fait qu'elles soient utilisées pour un problème biologique, donc déjà, et pas physique, donc ça ne va plus être l'équation dans les mêmes conditions. Et en plus que les biologistes, eux, ont des questions qui ne sont pas les nôtres. Nous, on va se poser un peu toujours les mêmes questions. Enfin, j'exagère, mais les questions habituelles de mon domaine, c'est alors, est-ce que l'équation a une solution? Comment ça se comporte en temps long? Comment ça va dépendre des paramètres? Mais là-dessus, les biologistes vont poser des questions qui n'ont peut-être absolument rien à voir avec tout ça.
Lesquelles, par exemple?
Eh bien, par exemple, ça va être, est-ce que si y a de la variabilité, de l'hétérogénéité, si chaque individu se comporte différemment, ça va permettre à la population de se développer plus rapidement ou moins rapidement ou d'être plus résistante. Ça va être, ben, on observe un comportement apparemment contre-intuitif. Par exemple, là, je vois qu'il y a des bactéries qui réagissent si on cumule deux antibiotiques, les bactéries poussent mieux que s'il n'y en a qu'un seul. Eh bien, qu'est-ce qu'on va écrire mathématiquement pour expliquer ça? Et ça, c'est très amusant parce que ça peut nous conduire à découvrir des comportements pas intuitifs du tout de nos équations.
Marie Doumic, on va continuer à parler de vos travaux de recherche avec Adrien Rossi, qui s'est intéressé pour sa chronique Médiation scientifique à une conférence que vous avez donnée sur la croissance des populations de bactéries, justement, il y a de ça quelques années maintenant, c'est ça? Bonjour Adrien, d'abord.
Bonjour Hélène. Bonjour Marie Doumic. Effectivement, Marie Doumic, vous avez donné le 15 mars 2022 une conférence pour des élèves de collège intitulée « Pourquoi les bactéries se divisent-elles? Comprendre la croissance des populations ». Cette conférence avait lieu à l'Institut Henri Poincaré dans le cadre d'un programme de recherche croisant les mathématiques et la biologie. Pendant votre exposé, vous avez notamment insisté sur la fonction exponentielle, une fonction mathématique très importante au programme de maths du lycée et dont on entend souvent parler dans de nombreux domaines, pas seulement uniquement dans la recherche scientifique. Je profite donc de ma chronique pour revenir sur cette fonction et surtout sur comment celle-ci défie notre intuition, avant de vous proposer, Marie Doumic, ensuite, de nous expliquer plus en détail vos recherches sur la croissance de la population des bactéries. Alors, un bon exemple pour comprendre l'exponentielle, c'est la légende de Sissa. Cette légende raconte l'histoire de l'inventeur d'un jeu d'échecs, dans un royaume indien où le roi s'ennuie. Sissa propose son jeu au roi, et celui-ci, pour le remercier, lui demande de choisir la récompense qu'il souhaite. Sissa demande au roi de prendre un plateau du jeu d'échecs, et de mettre un grain de riz sur la première case, 2 sur la deuxième, 4 sur la suivante, puis 8, puis 16, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz. Sissa se contentera de récupérer le nombre de grains de riz qui seront alors sur tout le plateau. Surpris par cette demande paraissant très modeste, le roi accepte. On va donc maintenant essayer d'imaginer combien de grains de riz cela fait sur tout l'échiquier. Alors, ça paraît a priori pas délirant, donc je vais laisser quelques secondes à nos auditeurs et auditrices pour peut-être faire une petite estimation dans leur tête. Alors, donc, comme l'échiquier a 64 cases, le nombre de grains de riz sur la 64e case sera 2 puissance 63. Et la somme de tous les grains présents sur tout le tableau sera 2 puissance 64 moins 1. Alors, ça nous aide peut-être pas beaucoup, ça fait des grands nombres, et c'est pas forcément évident d'imaginer à quoi ça correspond. Alors, pour nous aider, je vais faire référence à une œuvre qui est exposée au Mathematikum, un musée de mathématiques qui est situé à Gießen, en Allemagne. On y voit un échiquier, avec sur la première case un grain de riz, 2 sur la suivante, puis 4, puis 8, et ainsi de suite. À la 15e case, on atteint le paquet de riz de 500 grammes. Ensuite, ce ne sont plus directement les grains de riz qui sont représentés sur l'œuvre, mais un objet dont le poids est équivalent à celui des grains de riz qu'il faudrait mettre sur la case. Donc on atteint le poids en grains de riz d'un chat dès la 18e case, le poids d'un cheval à la 24e case, celui d'un éléphant à la 28e, celui d'un camion 36 tonnes dès la 31e case. On n'est même pas encore à la moitié de l'échiquier. Et ça continue. Le poids de la tour Eiffel est atteint à la 39e case, celui de la consommation annuelle de chocolat de la population allemande à la 46e case, celui de la population allemande elle-même deux cases plus loin, ce qui signifie au passage que les Allemands mangent donc chaque année l'équivalent d'un quart de leur poids en chocolat. J'ai pas la stat pour les Français, mais à mon avis c'est pareil. Bref, on atteint l'équivalent de la production annuelle mondiale de riz à seulement à la 55e case, ce qui signifie que 9 cases plus loin, quand on atteint la 64e case du tableau, cela correspond à plus de 500 ans de production mondiale de riz. Bref, c'est un exemple imaginaire, mais qui permet de bien se rendre compte des limites de notre intuition par rapport à l'exponentielle. Une croissance exponentielle, c'est une croissance où entre chaque palier, on multiplie la valeur par toujours le même nombre. Et plus ce nombre est élevé, plus ça augmente vite. Mais on voit que même en multipliant seulement par 2 à chaque palier, on atteint vite des très grands nombres. Cette croissance exponentielle, on en a aussi beaucoup parlé, et parfois très approximativement, pendant la pandémie mondiale de Covid. En mars 2020, au début de la propagation à grande échelle en Europe, le nombre de cas déclarés de Covid doublait chaque jour. En faisant le parallèle avec l'échiquier de Sissa, on peut se rendre compte qu'en une semaine, le nombre de cas est multiplié par plus de 100. Et donc que deux pays qui en fait sont à des stades très différents de propagation de l'épidémie ne sont en réalité qu'à quelques jours d'écart, ce qui impose d'agir très très vite. Un autre exemple historique de croissance exponentielle, c'est l'hyperinflation. Une situation économique qui s'est présentée dans de nombreux pays au XXe et au XXIe siècle, et dont l'exemple le plus extrême, c'est l'hyperinflation en Hongrie en 1946. Au plus fort de la crise, les prix étaient multipliés par 2 toutes les 15 heures. Et donc l'inflation cumulée avait entraîné une multiplication des prix par environ 100 milliards de milliards en seulement un an. Alors dernier exemple, celui auquel vous vous intéressez, Marie Doumic, les bactéries. Celles-ci, au cours de leur vie, grossissent, puis se divisent en deux bactéries, puis recommencent. On l'aura compris, avec un processus comme celui-ci, ça peut aller très vite. Par exemple, si on prend une bactérie qui grossit et se divise en deux toutes les 20 minutes, en partant d'une seule bactérie, on en a 8 au bout d'une heure, 64 au bout de 2 heures, 4096 au bout de 4 heures, etc., etc. Si on laisse proliférer, on atteint une colonie de bactéries qui fait 200 fois la taille de la Terre en seulement 2 jours. Bien sûr, ça, c'est avec une quantité de nourriture infinie, donc pas d'inquiétude, c'est seulement théorique. Marie Doumic, vos recherches en mathématiques appliquées à la biologie vous ont amené à travailler sur la croissance des populations des bactéries, et notamment sur la question du critère qui amène des bactéries à se diviser. Est-ce que c'est leur âge, est-ce que c'est leur taille, ou autre chose? Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce problème, et en quoi ça permet d'illustrer les liens féconds entre mathématiques et sciences de la vie, comme vous avez déjà commencé à l'expliquer? Comment est-ce que vous avez appréhendé ce sujet en tant que mathématicienne de la croissance des populations de bactéries?
Alors, merci beaucoup Adrien, c'est passionnant cette présentation de l'exponentielle. Comment est-ce que j'y suis arrivée? Alors, si je suis vraiment honnête, c'était d'abord par les maths. C'est-à-dire que j'ai commencé par étudier l'équation ou des équations qu'on appelle des équations de dynamique des populations qui peuvent décrire les comportements de bactéries. Et là-dessus, j'ai rencontré un mathématicien, Georges Zubelli, spécialiste des problèmes inverses, qui avait proposé avec Benoît Pertam une écriture de comment est-ce qu'on peut, sur cette équation, retrouver le taux de division, c'est-à-dire comment est-ce que la cellule se divise en fonction de sa taille. Et c'est comme ça qu'on a commencé, d'abord, vraiment, en regardant ce problème-là d'un point de vue théorique. Mais évidemment, quand on se demande comment est-ce qu'on va estimer, à partir de mesures sur la population, un taux de division, on a très très envie, enfin moi j'avais très envie, de rencontrer des biologistes qui aient des vraies données. Et c'est là où j'ai rencontré Lydia Robert, qui était biologiste, qui avait des données absolument magnifiques sur le sujet, et que donc on a commencé à se poser la question. Et ce qui est amusant, c'est qu'on se l'est posé en même temps que d'autres groupes, et que la réponse qui est finalement venue, qui est très récente, 2015, c'est qu'une cellule... Donc l'idée derrière, c'est de dire, est-ce qu'on peut, en observant la population, alors dans une condition de croissance exponentielle, qui est donc évidemment une simplification, et ça c'est très commode pour ça, c'est-à-dire qu'on peut supposer qu'elle se comporte comme si elle était en croissance exponentielle, et c'est vrai au moins pendant quelques divisions. Est-ce qu'en observant la population, on peut décider, on peut inférer, comprendre quel est le mécanisme sous-jacent de la cellule? C'est-à-dire, est-ce que c'est une horloge interne qui va lui dire « je suis trop âgé, je vais me diviser » ou est-ce que c'est une limite de poids? Est-ce qu'elle a une balance qui lui dit « ouh là là, là je suis très grosse, il est temps de me diviser » Eh bien en fait, la population ne va pas se comporter de la même façon, ne va pas avoir les mêmes caractéristiques selon la réponse. La réponse actuelle, c'est en fait elle se divise en fonction d'un mélange des deux, c'est-à-dire que son horloge interne est l'accroissement de taille depuis sa naissance. C'est comme un âge physiologique. Et ça, ça pose plein de questions intéressantes de modélisation aussi. Ça fait écrire une nouvelle équation, qui en fait avait déjà été écrite 20 ans après, mais pour une application complètement différente, pour des plantes, et pas beaucoup étudiée. Et puis après, ça pose encore, quand on tire sur le fil, ça va poser plein d'autres questions sur le lien entre la croissance, la division et la réplication de l'ADN à l'intérieur de la cellule. Voilà, donc il y a tout un champ qui s'est ouvert et qui n'est pas fini, je crois.
Et alors, donc, en quelle année vous avez commencé à travailler sur ce sujet? Donc, vous avez dit qu'en 2015, c'était là où on commençait à avoir des premiers éléments de réponse établis.
C'est ça, et on avait commencé à travailler en 2012, je pense. Et alors après, ça a aussi été très intéressant d'un point de vue mathématique, parce qu'on a mélangé là des méthodes d'équations dérivées partielles, avec des méthodes statistiques et de processus stochastiques. Donc, c'est là aussi où ça a donné une meilleure compréhension des mécanismes grâce à ce mélange de méthodes mathématiques.
Et qu'est-ce qui a permis de fournir votre élément de preuve, un peu, j'ai envie de dire, genre, je ne sais pas s'il y en a un vraiment explicitable facilement.
En fait, ça c'est aussi très intéressant, c'est une équipe de biologistes, ce n'est pas moi, qui a prouvé entre guillemets, parce que c'est une preuve biologique, le fait que c'était, il y a même eu deux équipes en même temps qui ont eu cette idée de l'incrément de taille, c'est-à-dire la croissance de taille par rapport à la naissance. En fait, ils ont regardé les corrélations. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est quelque chose que moi, comme analyste, c'était pas une idée naturelle. Et alors, c'est pas une preuve vraiment parce que la corrélation, c'est pas suffisant. Vous savez que on peut calculer une corrélation entre deux variables aléatoires et qu'elle soit nulle. Et pour autant, les variables aléatoires sont en fait corrélées. Mais c'est quand même un indice fort.
Et donc, depuis 2015, ce domaine de recherche, donc, il fait partie toujours de vos intérêts en tant que chercheuse. Quelles sont les nouvelles étapes de ce processus de travail sur la croissance de population des bactéries?
Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles pour la division et la croissance le plus exact possible, en tout cas suffisamment bons, disons. Et après, on peut les utiliser, par exemple, pour les résistances aux médicaments. Donc là, ce sont d'autres chercheuses, l'équipe de Maryam El-Karoui en particulier, qui travaillent sur les résistances aux médicaments et comment le cumul de deux antibiotiques, par exemple, agit différemment, etc. Et puis, il y a aussi des recherches sur les mutations, sur les bactéries, pour voir comment une mutation peut affecter le taux de croissance. Voilà.
Avec donc des applications possibles en médecine, j'imagine.
Oui, exactement.
Marie Doumic, vous avez aussi beaucoup travaillé sur les maladies amyloïdes, qui sont notamment des maladies comme la maladie d'Alzheimer. De quelle manière, vous, mathématicienne, vous avez approché ce terrain de recherche qui est encore, pour l'instant en tout cas, où on a trouvé assez peu de choses, il me semble?
Oui, absolument. En fait, c'est vrai qu'on est toujours très modeste quand on est mathématicien et qu'on s'approche d'une application en biologie, par exemple, parce que on prend conscience de... On est quand même sur des sols très mouvants. Il est difficile de dire quelque chose de façon absolument certaine. Donc, on peut apporter des éléments. Et pour les maladies amyloïdes, une des grandes difficultés, c'est que ce sont des maladies qui incubent pendant 10, 20 ans, peut-être même plus. Et donc, au moment où on découvre la maladie, où on la diagnostique, on n'a pas accès à l'origine, à l'élément déclencheur. Première difficulté. Et deuxième difficulté, ce sont les échelles. On est vraiment de l'ordre du nanomètre. Ce sont des accumulations de polymères de protéines qui font quelques nanomètres. Et les mesures sont très difficiles, évidemment. En plus, les mesures sur un patient, c'est très invasif. Donc, on est obligé de faire les biologistes sont obligés de faire des expériences in vitro qui s'éloignent de la vraie vie. Et donc, comprendre, par exemple, une des grandes questions, c'est mais comment est-ce que ces polymères de protéines, qui sont donc des fibres amyloïdes toxiques, comment est-ce qu'elles se forment initialement? Comment est-ce qu'elles s'assemblent? Pourquoi est-ce qu'elles s'assemblent? Donc, nous, on peut construire des modèles mathématiques. Et ça, c'est le côté satisfaisant, c'est qu'on a des outils pour répondre. Mais après, confronter ces modèles aux données réelles, ça, c'est encore très difficile, parce qu'on n'aura pas un seul modèle qui va permettre d'expliquer. Quelqu'un disait « Donnez-moi 3 points et je peux vous estimer un éléphant ». On manque encore beaucoup de données ou de données suffisamment fiables. Donc c'est pour ça qu'on fait des modèles mathématiques, on essaye de leur faire dire le plus de choses possibles. Ils apportent aussi des choses au domaine des mathématiques en apportant des nouvelles équations, des nouveaux problèmes. Et on répond, parfois partiellement, on a pu développer des méthodes pour estimer la façon dont des fibres amyloïdes se fragmentent. Et alors sur des expériences in vitro, mais malgré tout, ça peut être très révélateur de la stabilité d'un polymère. Et la stabilité d'un polymère, ça va être lié à son degré d'infectiosité. Donc c'est tout de même des choses où on peut apporter des éléments, même si on a l'impression que on court loin derrière et que parfois les plus grandes découvertes se font un peu par hasard.
Est-ce que vous croyez qu'on est chercheur en mathématiques et qu'on est mathématicien, mathématicienne aussi avec son tempérament, sa personnalité et de manière presque sensible aussi?
Oui, c'est vrai, c'est très sensible. Je pense que ça, pas mal de collègues seraient d'accord. C'est quelque chose de très vivant finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et oui, on y apporte tout ce qu'on est. Donc il ne faut pas hésiter, si on a un goût pour les maths, même si on se dit qu'on n'est pas assez fort, je crois que ce n'est pas vrai déjà. Je crois qu'on a besoin de gens... D'accord, c'est un peu comme pour... J'ai beaucoup employé ce terme suffisamment bon, mais c'est un peu pareil. Il faut être aimer suffisamment, il faut aimer les maths, ça c'est sûr, et y avoir suffisamment de facilité. Mais on n'est pas obligé d'être un super crack, ni d'être premier de classe. Il suffit d'avoir un bon talent, voilà, normal. Et après, on y apporte plein d'autres qualités qui ne se mesurent pas par les examens, qui sont la curiosité, la ténacité, l'enthousiasme, la capacité à faire des liens d'une discipline à l'autre, la capacité au contraire à s'immerger dans un problème et à le ruminer toute la journée. Voilà, on a besoin de tout ça.
Marie Doumic, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée pour cet épisode de L'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique Médiation Scientifique et toute la programmation du podcast. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à consulter la page internet de l'émission et plus largement l'ensemble du site de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt.
Merci.
Merci, à bientôt.